Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, dans ce magazine, nous aimons vous proposer des rencontres avec des personnalités qui, peu ou prou, marquent leur époque dans l'univers des idées, dans l'univers de la pensée ou du journalisme. Cette semaine, nous vous proposons d'écouter un homme qui est à la fois journaliste, écrivain, réalisateur et parolier. Il s'appelle Philippe Labreau, le fil rouge de sa vie, c'est l'Amérique. Ses écrits américains sont d'ailleurs rassemblés dans un ouvrage de la collection Quarto chez Gallimard qui vient de paraître. Dans la préface de ce recueil, Philippe Labreau cite Francis Scott Fitzgerald qui a écrit ceci. « La France était une terre, l'Angleterre était un peuple, l'Amérique était difficile à définir, c'était une volonté du cœur. » Nous sommes donc allés à la rencontre de Philippe Labreau pour un nouveau numéro du magazine Idées que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio ou sur votre plateforme numérique préférée. Bonjour Philippe Labreau.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans votre bureau qui évoque déjà votre vie notamment aux États-Unis. Il y a sur votre droite au mur la une de François au temps du meurtre de Kennedy sur lequel évidemment nous reviendrons. C'est un lieu symbolique celui dans lequel nous sommes.
C'est mon deuxième lieu de vie, c'est plus qu'un bureau. Il y a mes archives, il y a des photos des amis, de la famille, il y a tous les bouquins que je reçois, certains je garde, d'autres je m'en débarrasse. Il y a des archives de mes émissions de télévision, enfin bref. Et puis il y a des crayons. Vous avez remarqué la pluralité, la munificence des crayons.
C'est toutes les couleurs. D'où vient cette passion pour le crayon ?
Pour trois raisons. La première, c'est que ça me rappelle toujours l'enfance. Quand on était écolier, à l'époque, on travaillait avec des crayons. La deuxième, c'est que j'aime le bois. Le bois est une matière que j'adore. Et la troisième, c'est qu'il y a des gommes au bout des crayons et la gomme efface vos conneries. Donc c'est très important.
Philippe Labreau, je le disais en introduction tout à l'heure, quelle carrière que la vôtre ? Je crois qu'il y a un mot qui peut résumer cette carrière, c'est le mot, pour le moins, curiosité.
Et éclectisme.
Oui.
Et la curiosité, effectivement, c'est au départ, un enfant, un des mots qu'il prononce le plus, c'est « pourquoi ». Et moi, je l'ai beaucoup prononcé. Et donc, le « pourquoi » m'a toujours obsédé. Et la seule façon d'obtenir des réponses à mes « pourquoi », c'est de partir. C'est de voyager et c'est de faire du journalisme, puisque le journalisme, c'était une vocation chez moi très très tôt, cette activité intellectuelle qui vous permet effectivement d'essayer de comprendre le monde et ensuite de le restituer. N'oubliez pas, reporter, il reports, hein, il rapporte ce qu'il a vu.
Comprendre l'époque dans laquelle vous êtes, nous sommes, et comprendre, autrement dit, l'air du temps. Et
oui.
J'utilise cette expression à dessein, l'air du temps.
Vous avez raison, c'est l'expression qu'avait mis à la mode le petit génie de la presse d'une partie du demi-siècle, qui était Pierre Lazareff. C'est lui qui avait décidé ce terme pour, au fond, nous indiquer à nous, ces journalistes, ce qu'il fallait chercher. C'est ce qu'il y a dans le moment, dans l'air. Qu'est-ce qui se passe ? Le temps. Restituez-le, donnez-le nous. Racontez, rapportez. Pierre nous disait une chose que j'ai toujours conservée. À défaut d'être intelligent, soyez intelligible.
Ce qui est une leçon de journalisme toujours actuelle, plus que jamais.
Oui, bien sûr.
Alors, évoquons cette carrière et ses écrits qui sont publiés donc chez Gallimard dans la collection prestigieuse Quarto, les écrits américains, quelques-uns de vos livres, Un Américain un peu tranquille, Étudiant étranger, Un été dans l'Ouest, Rendez-vous au Colorado, et des articles sur les États-Unis notamment. Il n'y a qu'un livre qui n'est pas un roman, c'est On a tiré sur le président.
C'est pas un roman du tout.
Ouais, on va revenir sur ce livre dans un instant. Mais en lisant vos livres, Philippe Labreau, en regardant votre parcours, je me dis qu'un destin tient à peu de choses finalement. Et je pense au début de L'étudiant étranger, qui est un des livres donc publiés dans ce quarto, où vous racontez, je crois que c'était en 1954, vous étiez au lycée et vous voyez débarquer un jour, un beau matin, oui. L'hiver aussi, des hommes. Racontez-nous la suite.
Il n'y a pas de hasard, hein. C'est très intéressant la vie. À mon avis, tout est déterminé parce que je rate mon bac. Il y avait deux bacs à l'époque. Je le rate, donc je redouble. Si je n'avais pas redoublé, j'aurais pas été dans cette salle quand ces gens sont arrivés. Bon. Ce sont des représentants d'un institut international de l'éducation qui viennent nous dire qu'il existe une bourse d'échange américaine qui s'appelle Fulbright, un sénateur américain très intelligent qui avait décidé que pour tout étudiant américain qui allait en Europe ou ailleurs, il fallait un étudiant étranger qui aille aux États-Unis. Donc cette bourse, en principe, est uniquement consacrée aux étudiants qui sont déjà en fac, hein, qui sont déjà à un niveau supérieur au vôtre, messieurs. Nous étions en classe de philo, en classe d'anglais, pour préparer le deuxième bac. En revanche, cette année, comme par miracle, il reste 3 ou 4 bourses qu'on peut distribuer à des lycéens, à condition que vous ayez votre bac, bien sûr, à la fin de l'année. J'ai tout de suite levé le bras, voilà. Donc ma réaction, c'est le bras levé, parce que j'avais depuis toujours un désir, une envie d'Amérique.
C'était une chance unique, écrivez-vous dans L'étudiant étranger. J'ai levé la main, et c'est là que tout a commencé, finalement.
Que cette affaire-là a commencé. Il y avait d'autres choses qui avaient déjà commencé. Hein. La vie ne commence pas à 18
non,
ans.
Non, hein. Mais je parle de votre vie professionnelle, en quelque sorte.
Oui, c'est-à-dire que j'avais déjà, à l'âge de 15 ans, grâce à un concours qu'avait fait le Figaro, travaillé pour un petit journal qui s'appelait le Journal des Jeunes, qu'organisait le Figaro. On était supervisé par des adultes, bien sûr. Mais déjà là, à 15 ans, j'avais pris le goût et la vocation du journalisme. Donc, quand quelques années plus tard, il y a cette proposition... Je lève la main, pourquoi ? Parce que je sais que là-bas, il y a des cours de journalisme, il y a des écoles de journalisme. À l'époque, il n'y en avait pas du tout en France. Et donc, je savais que si j'obtenais cette bourse, eh bien, j'avancerais dans la connaissance d'un métier qui me passionnait. Donc, j'ai fait une lettre d'intention. On ne l'a pas comme ça, cette bourse. Il faut qu'il décide selon la manière dont vous exprimez, dont vous dites pourquoi et comment vous en êtes arrivé à cette candidature. Et 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre... avec une enveloppe étrange, avec des timbres d'une couleur que je ne connaissais pas, et qui m'expliquait que j'étais convoqué début septembre à la rentrée dans une université en Virginie, Washington and Lee University.
Où vous avez beaucoup appris, aussi bien sur la vie que sur le journalisme d'ailleurs.
Ben, on apprend toujours hein, quand on se déplace. Hein. Vous savez, Paul Morand disait, les gens qui ont eu 20 ans à l'étranger sont différents des autres. Moi, j'ai eu 18 ans à l'étranger. À l'époque, partir aux États-Unis, ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui.
Là, je rappelle que nous sommes vers 1954.
Oui, c'est le milieu des années 50. Et donc là, je suis arrivé effectivement dans un endroit où la première chose qu'il faut faire quand on arrive quelque part, c'est s'adapter. Car c'était un autre univers. D'abord, une autre langue. J'étais un peu déjà bon en anglais, mais bon... des mœurs, des comportements, des habitudes, des rites, des routines. Dans une université américaine, comme dans toute université d'ailleurs, américaine en particulier, il y a toutes sortes de rites, il y a toutes sortes de conventions, il y a des conformismes, il y a des règles. À Washington et Lee, à l'époque, il y avait les 3 règles. Premièrement, il fallait toujours dire bonjour à quiconque on croisait sur le campus. Ça s'appelait the speaking rule, la règle de la parole. Deuxièmement, il fallait être très bien habillé, toujours costume-cravate. Troisièmement, on ne triche pas. Vous pouvez laisser vos affaires sur un banc sur le campus, vous les retrouvez le lendemain. Et si vous trichez, on vous vire dans la semaine. Voilà. Et donc, je me suis adapté à tout cela, bien sûr. L'adaptation n'a pas été facile. Ça a même été parfois très douloureux. Hein. Je me sentais parfois très seul. Mais il y avait aussi, et j'ai toujours remercié les États-Unis pour ça, un sens de l'hospitalité extraordinaire, parce que je suis pas revenu en France du tout, et donc j'étais invité pour les vacances, Noël, les vacances de Pâques, et je me suis baladé comme ça à peu près à travers tous les États-Unis.
Alors pour comprendre cette époque, il faut lire L'étudiant étranger, ou le relire, Philippe Labro. Quand vous êtes revenu à Paris après cette expérience très importante pour vous, vous aviez quoi ? Vous aviez 20 ans, 20 ans à Paris, et vous dites aujourd'hui que vous étiez un petit con.
Non. C'est un con, mais pas petit. Non, j'étais pas...
Un peu arrogant, en tout cas.
Non, c'est-à-dire que j'avais la sensation, la certitude, même que j'en savais plus que les garçons de ma génération dans ce métier-là, puisque j'avais acquis, parce que je suis resté un an de plus, hein, on ne va pas raconter comment et pourquoi, mais j'ai réussi à rester un an de plus. Donc, deux années d'immersion totale dans la vie américaine, pas un mot de français pendant deux ans, connaissance de leur histoire, leur culture, leur comportement, leur sciences politiques. Et donc, je me croyais portant d'un savoir et d'un savoir-faire qui pouvait m'aider dans le journalisme. Simplement, effectivement, premièrement, je l'affichais un peu trop. Et deuxièmement, je n'avais pas fait mon service militaire. On était en pleine guerre d'Algérie. Donc, il y avait des problèmes. J'ai réussi à les contourner pendant un moment, puisque je suis resté quelques années à France Soir, où j'ai fini par être engagé, après avoir fait un début à Europe numéro 1. Mais, dans l'ensemble, oui, c'est un tournant de professionnel. Porteur de ce savoir, porteur de cette culture, même si au début on m'a pris pour le con arrogant, j'ai réussi grâce à ça à me retrouver là-bas très souvent. J'étais spécialiste, donc quand il y avait quelque chose, ben on m'envoyait là-bas.
Une petite parenthèse, vous évoquiez l'Algérie à l'instant, ça nous éloigne quelques minutes des États-Unis. Philippe Labro, vous avez écrit Des feux mal éteints, qui est un roman là pour le coup, qui se passe en Algérie et qui vous raconte, vous, en Algérie, c'était quoi, la fin de la guerre d'Algérie, non ?
Oui. C'était le passage compliqué vers l'indépendance, oui. Avec l'opposition violente des Pieds Noirs et de l'OS. Et j'étais, comme certains garçons de ma génération, envoyé un peu comme civil militaire. C'était comme j'avais déjà fait du journalisme, on m'a versé dans un journal local militaire, qui s'appelait Bled, et 5-5, et on travaillait donc pour l'armée, oui, et pour le gouvernement français. Des feux mal éteints, c'est un roman générationnel, complètement. Encore aujourd'hui, moi j'écris à peu près 25 livres, je considère que c'est mon livre le plus important. Pourquoi ? Parce qu'il traite de la guerre, et que la guerre, c'est un des éléments les plus importants d'une existence. C'est là où la vérité éclate tout le temps. C'est là où il y a des choix à faire. C'est là où vous voyez la différence entre le courage et la lâcheté. C'est là où vous avez à choisir. Et c'est là où vous apprenez, effectivement, la violence, le danger.
Et d'ailleurs, le titre « Des feux mal éteints », Philippe Labro, vous, encore aujourd'hui, quand on pense à la relation entre la France et l'Algérie, par exemple, hein, « Des feux mal éteints ».
Ah oui, oui, ils ne sont pas éteints du tout, même.
Pierre Lazareff, Pierre Desgros, Pierre Dumayet et Igor Barrère vous proposent 5 colonnes à la une.
Alors revenons aux États-Unis, Philippe Labro. Vous avez donc commencé à Paris cette carrière de journalisme, Europe 1, France Soir, Pierre Lazareff. Et il y a aussi 5 colonnes à la une. Vous étiez donc le monsieur Amérique, le spécialiste des États-Unis. Et dans le cadre de ce magazine prestigieux, qui est un magazine mensuel, vous avez effectué des reportages pour ce magazine, et notamment sur les États-Unis.
Mais oui, mais là encore, il n'y a pas de hasard. C'est normal. Bon, je suis déjà donc à France Soir. Pierre Lazareff a fait cette merveilleuse émission avec deux hommes merveilleux qui s'appelaient Pierre Desgros et Pierre Dumayet, Igor Barrère.
Les papas, on les appelait les papas.
Ouais, les papas, oui. Ben, ils étaient intelligents. Vous savez, à l'époque, les patrons d'émissions de télévision, c'était des agrégés de lettres, des agrégés de philo. C'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Bon, bref. Et donc, 5 colonnes fait une fois par mois toutes sortes de sujets, on appelle ça des sujets. Et un jour, il décide qu'on devrait montrer comment c'est la vie sur un campus américain. Ils vont évidemment me le demander, puisqu'ils savent que j'y étais et que quelques années seulement auparavant, je connaissais. Donc, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a un enchaînement de circonstances qui font que je me retrouve effectivement sur le campus de Yale, dans le Connecticut, à midi. Le 22 novembre
1963,
et je vois débarquer un môme qui arrive de loin en criant quelque chose que je ne comprends pas. À mesure qu'il avance, on finit par comprendre, il crie « The president has been shot, the president has been shot ».
The
Il semble que quelque chose est arrivé au cortège présidentiel. Je répète, il s'est produit quelque chose. Des gens courent sur la colline le long d'Elm Street, près de l'autoroute.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. some 38 minutes ago.
Et là, il nous raconte qu'effectivement, on vient d'apprendre l'assassinat de Kennedy à Dallas. Je suis avec une équipe de 5 colonnes à une, et je les laisse, je vais vers un téléphone, j'appelle François, mon vrai organe, et on me dit, tu laisses tomber la télé, hein, ne nous emmerde pas avec 5 colonnes, c'est mensuel, là on est dans le vif, dans le chaud, dans l'immédiat, tu t'en vas, tu pars. Et donc je laisse toute l'équipe technique, ils m'en ont voulu assez longtemps, je dois dire, je prends même leur voiture de location, et je fous le camp à New York pour être dans un avion et arriver à Dallas le lendemain matin.
Voici donc Dallas, Texas, la ville où fut tué le président Kennedy, où fut tué Oswald, où fut tué l'officier de police Tippit, la ville aux trois cadavres.
Donc vous avez été un des premiers témoins de cette situation d'après-assassinat. Et vous racontez dans le livre, on a tué le président, comme vous l'aviez raconté dans vos articles. D'ailleurs, sur votre droite, il y a au mur, encore une fois, cette une de France Soir, et où il est écrit « De Dallas, Philippe Labraud, téléphone ». À l'époque, c'était le téléphone. Et là, vous avez vu un Dallas sans dessus-dessous, et notamment la police légèrement débordée.
Qui ne le serait pas? C'est l'événement du demi-siècle. C'est évidemment un bouleversement. L'Amérique se demande si elle n'est pas attaquée. D'où vient cet assassinat? Qui a fait ça?
Oui, d'ailleurs, on se demande aujourd'hui, que faisiez-vous le 11 septembre 2001? À l'époque, on se demandait, et dans les années qui ont suivi, que faisiez-vous le 22 novembre 1963?
En effet. Eh bien, moi, j'étais dans les couloirs du petit commissariat de police de Dallas, avec des flics un peu débordés, je dois dire, et à peu près 300 journalistes. On était les deux seuls Français. Il y avait François Peloux, que j'ai beaucoup aimé, qui était le correspondant de l'AFP, qui malheureusement n'est plus là, et moi-même. Et toutes les câbles, la télé avait tout envahi, parce qu'à l'époque, c'était des gros câbles, on met les caméras un peu partout. Tout ça, au milieu de flics qui ne savaient pas très bien comment se débrouiller, comment organiser les choses. Et nous voyons régulièrement, toutes les heures ou presque, enfin toutes les deux heures, Lee Harvey Oswald descendre du premier étage de la cellule où il était, parce qu'il y avait deux étages, l'étage des cellules et le rez-de-chaussée, on était tous, l'étage des bureaux. Et il arrive, encadré par deux flics, habillés à la texane, hein, les Stetson et les bottes à talons biseautés, et surtout par le capitaine Will Fritz, qui était le patron de la police, le shérif Will Fritz, dont la caractéristique principale, c'est que le nez était très rouge, parce qu'il tapait pas mal sur le bourbon, qui s'installe dans ses bureaux avec des vitres. On voyait donc tout ce qui se passait, hein, des bureaux vitrés. Et là, il s'installe face à Oswald, ou Oswald face à lui, et il l'interroge. Il n'y a pas de sténo, il n'y a pas de magnétophone, personne ne prend de notes. Il est face à l'homme, le présumé coupable, le présumé assassin, donc un des hommes les plus importants du moment et du monde, et il l'interroge comme ça. Bon, c'est pas de l'amateurisme, c'est comme ça qu'ils font à Dallas à l'époque. Mmh. Et néanmoins, ça trouble. Mais sinon, on le voit aux autres comme je vous vois vous, hein, je ne vois pas plus loin que vous, hein, face à moi. Il a d'ailleurs mon âge, hein. Et je suis tout de suite frappé par ce qu'il y a sur son visage. Moi, je suis un comportementaliste et je crois pas mal à ce qui peut se lire sur le visage d'un homme ou d'une femme. Et je voyais une espèce de, ce qu'on appelle en anglais, un smirk, c'est-à-dire une sorte de rictus au coin gauche de la lèvre, qui pour moi signifiait « Je suis l'homme le plus important du monde, j'en sais plus que vous, et vous ne saurez rien. » Voilà. Et on lui posait des questions, il disait « Mais non, personne ne m'a demandé si j'ai tiré sur le président, je ne suis qu'un pigeon, tu parles, il mentait comme il respirait. »
Alors vous l'avez vu vous, mais vous avez également vu Jacques Ruby, qui a tué Harvey Oswald.
Ben oui, si vous voulez, dans ce petit commissariat très encombré de flics et de journalistes, il y avait un homme qui n'était ni flic ni journaliste, et ça se voyait tout de suite qu'il n'était pas journaliste, parce qu'il n'était pas habillé comme nous, avec un petit feutre sur la tête, avec des gros flaquettes, une grosse bagouze au doigt, qui avait l'air d'une sorte de ce qu'il était, un patron de striptease club. Hein. Jack Ruby, qui se présente. Et, hey Jack, how are you Jack? Tous les flics le connaissent. Très copain, parce qu'il se balade dans le commissariat comme s'il était chez lui. Et il était chez lui, parce que tout ça, on est en province. C'est une petite ville à l'époque. Enfin, pas si petite que ça, mais ils se connaissent. Et il a un club de striptease où il reçoit les flics tous les soirs, à qui il laisse des drinks à l'œil et peut-être plus que des drinks. Bon, donc complicité totale. Il est là, il se balade et il entend mon accent français. Il me dit « Ah, okay, vous êtes quoi ?» Je dis « I'm French, je suis français. » Ah, il me dit « La France, Folie Bergère !» Voilà, parce que pour lui, la France, c'était la Folie Bergère. Bon, on se dit trois bêtises, il donne sa carte de visite, terminée. Pas plus que ça. Hein. Et moi, je me dis simplement « Qu'est-ce qu'il fait là ?» Les gens disent « Mais c'est Jacques, bon, on le connaît. » Qu'est-ce qui se passe ? Bon, il tue Oswald le lendemain.
Tout s'est passé dans cet immeuble, ici, l'immeuble de la police. Oswald a été interrogé dans ses bureaux modestes par le capitaine Fritz, un policier qui désormais ne veut plus rien dire, il a eu trop d'ennuis. C'est ici aussi qu'Oswald a été abattu dans ce garage, par Ruby, le dimanche matin. Je refais pour vous la sortie d'Oswald. Il sort de cette porte encadré par deux policiers. Il a en face de lui les caméras de la télévision. Il est aveuglé par les projecteurs, il ne peut voir personne. Les caméras sont là. Il se retourne ensuite vers le fourgon. Et à ce moment-là, Ruby le tue.
On a tiré sur Oswald.
Quand la commission Warren a commencé à travailler, c'est là où je dis qu'on la critique un peu trop, cette commission. Ils ont envoyé à Paris, deux mois après, deux agents du FBI pour me convoquer et pour m'interroger sur ce que m'avait dit Ruby, ce que j'en avais pensé. Pourquoi ? J'avais évidemment, dès le lendemain, écrit un papier sur Ruby, puisqu'entre-temps, il avait tué Oswald. Et donc, ils avaient eu le papier de François, et ils avaient décidé de traverser l'Atlantique, de prendre l'avion pour venir voir un jeune journaliste, leur raconter ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire pas grand-chose. Néanmoins, ça faisait partie de l'enquête. Voilà.
Et pour vous, il n'y a pas de complot ?
Non, je pense qu'il n'y en a pas. Vous savez.
Vous avez devant les yeux, d'ailleurs, livre qui est un livre de référence, semble-t-il.
Oui, ça s'appelle Case Closed, ce qui veut dire dossier fermé. C'est signé Gerald Posner, qui est un des meilleurs journalistes et historiens américains. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le bouquin de référence, selon moi, et pas seulement moi, selon beaucoup de gens, beaucoup d'historiens, beaucoup de journalistes, il n'a jamais été acheté ni traduit en France. Pourquoi ? Parce qu'il déjoue complètement l'idée d'un complot. Et ça n'intéresse pas les gens. Les gens, ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait un complot. C'est tellement plus intéressant, c'est tellement plus alléchant. Donc Posner, comme moi, comme beaucoup d'autres, comme Laurent Geoffrin, qui est un très bon historien, non seulement journaliste, mais historien, François Dufour, qui est le patron des éditions Le Quotidien, ce journal destiné aux lycéens français, deux historiens américains, Robert Dalek et Robert Caro, que j'ai rencontrés, qui ont écrit l'équivalent de 4 ou 5 volumes sur les présidents américains, tous ces gens-là pensent, comme moi, qu'il s'agit de ce qu'on peut appeler la tragédie sans raison. C'est-à-dire ce que j'appelle, ça arrive sans doute une fois tous les 1000 ans, un concours de circonstances, des éléments qui se sont croisés pour aboutir à cet événement. Deuxièmement, les preuves sont quand même là. Il y a les empreintes d'Oswald sur le fusil. Et puis, on oublie toujours, les complotistes semblent ne pas accorder d'importance au fait que quand Oswald quitte l'immeuble, hein, tout de suite, en courant, où il va ? Il va chez lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un pistolet, il le met dans sa ceinture. Qu'est-ce qu'il fait ? Il part en courant vers une station d'autobus qui devait l'amener au Mexique pour quitter, donc fuir le pays. Expliquez-moi pourquoi il veut fuir. En route, il y a un patrouilleur de police, J.D. Tippit, qui a reçu déjà le signalement d'un suspect, parce qu'on a déjà signalé Oswald, et donc il arrête sa voiture pour contrôler l'identité d'Oswald. Il sort de sa voiture, contourne la voiture, il va vers le garçon, et Oswald prend son pistolet, lui file 4 balles dans le buffet. Expliquez-moi pourquoi Oswald tire 4 balles dans le ventre d'un flic qu'il contrôle. Voilà, donc il y a des accumulations d'événements qui font, comme je dis, montrez-moi, démontrez-moi le contraire, j'accepte. Mais tant qu'il n'y a pas une preuve tangible, alors ils vous donnent, les complotistes, bien sûr.
Il y a beaucoup de thèses hein, différentes non, les unes que les autres.
Pas seulement des complotistes, des historiens. Il y a même eu des commissions d'enquête beaucoup plus tard aux États-Unis qui ont démontré ou prouvé qu'il était possible qu'il y ait effectivement un deuxième tireur. Possible, probable, mais ce n'est pas arrivé.
On a coutume de dire à Dallas, sans pétrole, il n'y aurait pas de Texas. Ici, Kilgore, la ville miracle, le village miracle, où en 1931, des clochards et des paysans devinrent du jour au lendemain des milliardaires. Et désormais, le mot Texas, qui voulait dire Cadillac et puits de pétrole, va aussi être accouplé à une des plus grandes énigmes de l'histoire, l'assassinat de Kennedy.
Philippe Labro, vous avez ensuite continué votre carrière de journaliste en France. Elle est tellement riche qu'on ne peut pas s'arrêter sur tous les détails. Je voudrais quand même m'arrêter, moi, sur la période qui est celle du cinéma. Vous avez toujours été marqué par le cinéma, notamment le cinéma américain. Et en 1971, vous avez réalisé un film qui a été salué à l'époque, Sans mobile apparent, c'est en 1971, avec Jean-Louis Trintignant et Stéphane Audran. C'est un film qui est aussi inspiré des États-Unis.
C'est une adaptation d'un roman américain, un roman noir, Ed McBain, qui est un des meilleurs écrivains de polar des années 60-70, et qui se passait dans une ville mythique aux États-Unis. Et en le lisant, je me suis aperçu que ça pouvait être très bien adapté à la France et à la Côte d'Azur.
À Nice ?
À Nice, parce que je connaissais bien Nice, mes parents y vivaient. Et la Côte d'Azur, c'est un peu la Californie. Et je me disais, on peut situer la même chose en France. Et j'ai trouvé la construction du récit intéressante. J'avais un très bon dialoguiste, adaptateur, scénariste qui s'appelait Jacques Lanzmann. C'est ce garçon qui a écrit, lui, une cinquantaine de livres, hein, Jacques, et surtout les 800 tubes de Jacques Dutronc. Et Lanzmann et moi, on se connaissait très bien. À l'époque, c'était un des scénaristes les plus recherchés. On a ensemble adapté, développé un projet qu'on a présenté à un producteur, Jacques Strauss, qui venait de faire Le clan des Siciliens, et qui a accepté l'idée de s'embarquer dans cette aventure. Nous avons obtenu un très bon casting, parce qu'il n'y a pas seulement Trintignant, il y a Dominique Sanda, il y a évidemment oui. Stéphane Audran, dont vous parlez, Sacha Distel, Jean-Pierre Marielle, Paul Crochet, Laura Antonelli. Enfin, c'est un très très bon casting. Et avec le recul, bon, j'ai fait à peu près 7 longs métrages. C'est un de ceux que j'aime le plus parce qu'il y a un peu d'insolence. C'est monté de façon très habile par un garçon de génie qui s'appelait Claude Barrois, qui était le monteur de Claude Lelouch. Et ça tient le coup. Bon, évidemment, tous les films vieillissent. Hein, ouais. Il a bien vieilli.
Une enquête policière avec Trintignant et son secret, sa détermination.
Son personnage. Un homme qui répond jamais aux questions qu'on lui pose, qui se lave tout le temps les mains, un monomaniaque, un peu dur avec ses collaborateurs, un peu fermé. Jean-Louis, qui est un comédien extraordinaire, hein, c'est un des plus grands comédiens de sa génération. D'ailleurs, quand on regarde sa filmographie, il a fait une centaine de films, certains ne sont pas très bons, lui a toujours été très très bon. Et Jean-Louis nous a donné, m'a offert, parce que bon, je l'ai dirigé sans le diriger, vous savez, les grands comédiens, on ne les dirige pas, on parle avec eux, on leur explique les choses, un rôle formidable. Effectivement, avec le recul, c'est un film qui a été remasterisé, hein, et quand on le revoit, je pense que la lumière est très très belle, J'avais un très bon opérateur qui s'appelait Jean Panzer. Vous savez, quand on fait un film, il faut s'entourer des meilleurs.
C'est une lumière crue, hein, dans les souvenirs.
Une lumière bleue, selon la leçon de mon mentor Jean-Pierre Melville.
Alors justement, j'allais en parler. Vous parliez tout à l'heure, Philippe Labro, de Pierre Lazareff, qui était une rencontre déterminante pour vous sur le plan du journalisme. Vous avez eu aussi la chance d'être, j'allais dire, patronné, le mot n'est pas tout à fait exact, par Jean-Pierre Melville.
Oh si, si, patronné, non.
Qui vous a même aidé à...
Parrainé. Oui. Mentoré.
Oui.
C'est devenu un maître et un ami. Très intime. Alors ça démarre de façon assez étrange, parce que je fais un premier film, ça s'appelle Tout peut arriver, que personne n'a vu, mais qui a pas mal marché. C'est dans lequel j'avais découvert Fabrice Luchini. Donc on a une bonne critique, ça marche bon. Et j'ai fait une projection de presse, projection privée, pour préparer le lancement de ce petit film. Et sur la liste des invités, je mets le nom de Jean-Pierre Melville, parce que bon, c'était le nom important, et je me disais, ben, peut-être qu'il viendra, on ne sait pas. On attend, toute la salle l'attend, il avait dit qu'il venait, on l'attend. Il finit par arriver avec son Stetson sur la tête, ses Ray-Ban pour cacher ses yeux, parce qu'il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ses yeux, c'est pour ça qu'il cachait ça. Sa houppelant comme une sorte de pèlerine noire. Il arrive, tout le monde le regarde, et avant de s'asseoir, il me dit, avec cette espèce de voix basse que j'adorais, il m'avait toujours dit, il faut parler bas et lentement. J'aime beaucoup et j'aime déjà votre film. On n'a pas démarré la projection. J'aime déjà votre film. C'est merveilleux, non? Bon, le lendemain, on s'est parlé au téléphone et puis on s'est vus et on est devenus très, 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 très amis. Et il m'a effectivement beaucoup, beaucoup aidé pour Sans Bobile, mon deuxième long métrage. Il m'a dit, montrez-moi votre scénario. On s'est assis l'un face de l'autre, crayon à la main. Il s'est mis à me corriger, à me dire, là, il ne faut pas faire ça comme ça. Tiens, vous devriez utiliser tel objectif pour cette scène-là. Enfin, une leçon. C'est-à-dire que c'est un maître, mais un grand artiste. C'est un immense artiste, Melville. Hein. C'est un des plus grands metteurs en scène du cinéma mondial. Voilà un homme...
Fasciné par les États-Unis aussi.
Oui, bien sûr. Mais voilà un homme qui vous transmet son savoir, ses mystères, ses secrets. Je suis reconnaissant toute ma vie parce que c'est grâce à lui que j'ai pu réussir Sans Bobile. Parce qu'il m'a vraiment dirigé comme il fallait. Alors évidemment, sur place, j'ai pas... Mais malgré tout, il m'avait dit, vous m'appelez tous les soirs pour me dire où vous en êtes, vous me donnez le numéro du plan. Il avait gardé le scénario chez lui. Et un soir, je lui dis, j'ai des difficultés pour le lendemain, il y a beaucoup de positions de caméra, ça va être un peu compliqué. Il me dit, attendez, je monte dans ma Rolls et je viens vous voir. Je lui dis, surtout pas pour arriver à Melville. Dans le haut du Negresco, je suis foutu, là.
Philippe Labro, il y a eu d'autres films avec Belmondo, notamment oui. L'héritier et l'alpagueur. Il y a eu La Crime avec Claude Brasseur. Bon, il y a eu un certain nombre de films, Rive droite, Rive gauche, oui. Avec Depardieu et...
Carole Bouquet, Nathalie Baye.
Nathalie Baye. Que représente cette époque du cinéma dans votre parcours,
Philippe? Mais moi, j'ai adoré ça. J'aimais beaucoup faire des films parce que, d'abord, j'avais été élevé dans le cinéma. À l'âge de 12 ans, j'avais déjà vu pas mal de films. Quand j'étais au lycée, je séchais les cours pour aller le matin dans un petit cinéma près des Champs-Élysées. J'ai été habité et hanté par le cinéma. Et j'ai commencé à apprendre ce que c'était qu'une caméra, le montage, tout ça, grâce à Cinq Colonnes. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire 2-3 scénarios de court-métrage. Et puis j'ai fait mon premier film. Donc j'avais, comme beaucoup de gens de ma génération, un tel amour pour le cinéma que je me disais, il faut que tu le fasses toi aussi. Hein. C'était le point de passage obligé. Et pourquoi j'ai aimé ça? Parce que c'est très curieux. Je suis à la fois seul quand j'écris, hein, c'est la solitude totale, un besoin de personne, t'es tout seul avec ton papier et tes crayons. Et en même temps, j'adore diriger les gens. J'aime être entouré et j'aime diffuser et déléguer. Et un film, vous êtes au sommet d'une pyramide, n'oubliez pas ce que disait Truffaut. Truffaut, il parlait très bien du cinéma. Il disait, un metteur en scène, c'est quelqu'un à qui on pose 300 questions par jour. Il faut répondre 300 fois. Monsieur, la voiture violette ou rouge. Monsieur, la figurante là, pour la prochaine séquence, la petite herpès, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, tout le temps. Et ça me stimule, j'aime ça. J'aime le mélange des genres et j'aime l'idée qu'autour de moi, il y a des spécialistes qui en savent plus que moi. L'opérateur en sait plus que moi sur l'image. La script girl sait ce que c'est qu'une script et un script. L'assistant pour la déco, il connaît la déco mieux que moi. Donc il faut savoir très bien s'entourer, très bien déléguer et faire en sorte que cette petite communauté qui vit complètement en osmose pendant 3 mois fabrique 2-3 minutes valables par jour.
Tous les gens comme il faut se retournent sur moi. Principalement les femmes, je ne sais pas pourquoi.
Je le disais tout à l'heure, Philippe Labro, vous avez également été parolier pour Johnny Hallyday et Serge Gainsbourg, Jane Birkin.
Oui.
Lolita Go Home, c'est vous.
Oui. Tous les gens dans la rue se retournent sur moi. Ils me traitent de pute, je ne sais pas pourquoi. Lolita.
Lolita Go Home.
Lolita, Lolita Go Home. On me chasse de partout.
Oui, ben Serge, j'ai une amitié avec lui. Une rencontre, vous savez, ma vie est faite de rencontres, de rendez-vous, de rencontres. Et donc, je suis devenu très copain avec Serge pendant quelques temps, 4, 5 mois, 6 mois. Et un jour, il me dit, écoute, voilà, j'ai un film que je vais faire, mon premier film. D'ailleurs, je vais donner des conseils à mon tour. Je vais transmettre les mêmes conseils que m'avait dit. Et j'ai pas le temps, mais il faut que je fasse un album pour Jane, parce que la maison de disques le réclame. Tu vas écrire les chansons. Tu plaisantes. T'es le meilleur parolier de ta génération, sinon plus que ta génération. T'es un grand parolier. T'as pas besoin de moi pour. Non, j'ai pas le temps. Je te donne des titres et tu reviens me voir. Et effectivement, il avait raison. Romain Gary m'avait dit ça aussi un jour. Il faut trouver le titre, parce que le titre, c'est le concept. Donc il me donne 8 titres, 8 à 10. Je m'enferme chez moi et je me mets à travailler sur ma petite machine à écrire Olivetti. Et je reviens vers lui un mois plus tard à peu près, avec les textes. Et j'ai vu ce que je raconte souvent, et c'est exceptionnel, Serge s'asseoir devant le piano, ouvrir le magnétophone, poser son verre de whisky à côté, la cigarette sur la main gauche, prendre mes papiers, regarder chaque chanson, il dit « oui, c'est très bien, ça va ». Discuter absolument pas mes paroles. Pose la chanson devant lui et se met à composer et à écrire et à créer la musique.
À partir du texte.
Toute la nuit devant moi. J'ai jamais vu ça. Alors évidemment, un compositeur, comme vous le savez, il a dans sa tête des mélodies, il a des lignes de conduite, et il y a des musiques. Néanmoins, il créait, il inventait. Et il arrêtait, posait son magnétophone, on buvait, on discutait un petit peu. Allez, prenez la deuxième feuille, parce qu'il n'y a pas que Lolita, il y a si ça peut te consoler, il y a Bébé Song, il y a 8 titres. Il y en a même un anglais. Hein. You and me, or me and you, je ne sais plus. Et j'étais stupéfait et fasciné par le génie de cet homme. C'est un génie, Serge. Hein.
Philippe Labro, dans ce livre, dans ce quarto, il y a également un certain nombre d'articles que vous avez écrits sur l'Amérique, sur les États-Unis, sur ses écrivains, sur la société américaine. Vous dites par exemple que vous avez une admiration folle pour Raymond Chandler.
Oui, c'est un de mes écrivains favoris. J'ai été initié à Chandler par un copain, ici à Paris, juste avant de partir aux États-Unis. Il m'a dit « tu devrais lire cet homme, il est formidable ». Et donc j'ai effectivement aimé la construction de ces récits, certains sont insondables. Rappelez-vous, sur le tournage du Grand Sommeil, que fait Howard Hawks, ils sont là, ils ne savent plus qui a tiré sur qui et pourquoi il y a tel événement. Ils appellent Chandler en lui disant « Écoutez, on ne comprend pas où on en est ». Il dit « Je ne comprends pas non plus ». Mais Chandler avait et a une musique, un ton, un style, un talent, une façon de décrire, de raconter. Vous entrez dans une pièce avec lui, vous avez tout, l'odeur des plantes qui sont là dans cette vieille serre dans laquelle se trouve un vieillard milliardaire qui a convoqué le détective Philippe Marlowe. Philippe Marlowe, c'est un personnage mythique, comme chacun sait, c'est le détective par excellence, au point que, dans Tout peut arriver, mon premier film, le héros s'appelle Philippe Marlowe.
Il n'y a pas de hasard.
M-A-R-L-O-T. Bon, bref, j'ai beaucoup aimé, j'aime toujours Chandler aussi, je ne suis pas le seul. Hein.
Oui.
N'oubliez pas que les intellectuels français des années 40-50, les Sartre, les Camus, les Gide, parlaient de Chandler et de Hammett, Dashiell Hammett étant lui aussi un des grands écrivains américains du polar, comme des modèles. L'étranger, Camus a admis l'idée qu'il avait été un petit peu inspiré par un livre de Horace McCoy. Il y a 4 ou 5 noms de la littérature américaine noire, ce qu'on appelle les polars. Ce n'est pas des polars, c'est des romans. Les livres de McCoy, Hammett, Chandler, James Cain sont des livres qui racontent l'Amérique, la société américaine et le crime américain. Or, le crime existe en Amérique, partout ailleurs. Et donc, à travers ça, ce sont des fresques sociales. Hein. Il faut les prendre très au sérieux. Hein. Et d'ailleurs, il est intéressant de savoir qu'on est en train de retraduire Chandler. Il vient de ressortir, là, tout récemment, en série noire, Le Grand Sommeil, de The Big Sleep, qui est un des chefs-d'œuvre de Chandler. Et là, il y a un ton, il y a quelque chose, il y a des formules. Vous baignez là-dedans, vous êtes dans Los Angeles complètement.
Il y a plein d'articles sur les écrivains, je le disais, dans ce quarto de Philippe Labreau. Et il y a une anecdote, plein d'anecdotes aussi. Salinger, par exemple, je la trouve formidable, cette anecdote. Salinger,
oui.
L'attrape-cœur.
J.D. Salinger, sans doute un des plus grands écrivains de sa génération, et qui a fait rêver des millions d'étudiants, et pas seulement d'étudiants.
Un homme qui vivait dans le secret, qui avait voulu vivre dans le secret.
Il ne voulait rencontrer personne. Alors, il se trouve que j'ai un copain qui s'appelle Pierre Assouline, qui est un très bon écrivain, un grand critique et membre du jury Goncourt, qui connaissait ma fascination, comme beaucoup, hein, beaucoup de ma génération, hein, pour Salinger. Et il m'a offert une photo où on voit Salinger qui fait comme ça, avec une grimace, à travers la vitre d'une voiture, parce qu'il y a un paparazzo qui a réussi à le retrouver quelque part dans le Connecticut. Bon. Et donc, voilà, il y a cette photo qui est dans ma tête. Je suis aux États-Unis, je suis à New York pour aller visiter ma fille, Clarisse, qui fait ses études là-bas, comme par hasard. Étudiante étrangère, elle aussi. Et je suis, les 7 heures du matin, dans le hall de la Grand Central Station, la grande gare de New York. Et je vois passer des gens, et tout d'un coup, je vois une espèce de longue silhouette avec un long manteau, les cheveux gris, et je me dis, mais c'est lui! Et je suis sûr que c'est Salinger. Je m'avance vers cet homme, vers lui. Il marche assez vite. Et il avait l'air un peu comme ça. Et je lui dis, you're Mr. Salinger. Et il fait, ah! Et il me fait exactement l'expression qu'il y a sur la photo de Pierre. J'ai écrit ça dans un papier paru évidemment en France. Tous mes copains m'ont dit, tu es un mythomane, tu racontes des fables. C'est pas vrai, tu l'as pas rencontré. Bah si. Si, je l'ai croisé.
Il y a un article que j'ai bien aimé aussi, Philippe Labreau, dans votre livre. C'est un article que vous avez écrit pour Le Figaro en 2009 sur la doyenne des journalistes américaines lors d'une conférence à la Maison-Blanche, une conférence de presse à la Maison-Blanche, où elle a complètement déstabilisé le porte-parole d'Obama. Et là, vous dites que ça a été un tournant. Cette femme avait 89 ans à l'époque.
C'était la doyenne.
Hélène Thomas.
Hélène Thomas, légende vivante. Enfin, les plus vivantes. Légende. Mais oui.
C'était en 2009 ou durant ces années-là.
Oui, mais.
Durant le mandat d'Obama.
Oui, mais pendant les conférences de presse des présidents américains, hein, ça ne se passe pas tout à fait comme en France. Hein. Et là, elle relance. C'est-à-dire que.
Elle s'accroche.
Oui, ils ont la faculté de relancer. Parce que bien souvent, dans une conférence de presse, un président dit quelque chose, répond à une question, et puis il passe à une autre. Et là, la réponse, Mme Thomas, elle dit non, mais attends, ça ne suffit pas. Et elle relance. Et il y avait autour d'Obama une espèce de révérence, parce que c'était le premier noir qui dirigeait les États-Unis, ce qui d'ailleurs le voit moi m'a estomaqué, hein, parce que j'ai vécu dans une Virginie, beaucoup plus tôt, dans les années 50, de ségrégation totale. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour il y aurait un président noir à la tête de la Maison-Blanche. Mais il y avait de la référence autour de lui. Et elle avait. Ce n'était pas son problème. Son problème, c'était être un reporter. Rapporter.
Si nous terminions, Philippe Labro, notre conversation autour de la radio, vous avez fait une carrière à RTL, journaliste, directeur de la station de 1985 à 2001.
Ouais.
Parlez-nous un peu de la radio. Qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous, qui avez fait aussi de la télévision d'ailleurs?
Bah écoutez, d'abord, j'ai débuté à la radio. Hein. Mes premiers pas, c'était à Europe 1. Hein, ouais. Un petit génie qui s'appelait Pierre Laforêt qui avait inventé la Coupe des reporters. J'ai gagné la Coupe des reporters. Bon, bref. Bah, la radio, c'était, et ça demeure, l'instrument le plus immédiat, le plus spontané, le plus libre, le plus accessible. Vous pouvez l'entendre partout, n'importe où, n'importe quand. Le plus proche, parce qu'une voix, ça dit quelque chose. Je disais toujours à mes collaborateurs, je leur disais, attention, souriez quand vous parlez, parce que n'oubliez pas que vous adressez à des femmes. Et donc la radio, c'est un grand média. Malheureusement, en ce moment, il commence à un petit peu régresser en France, en tout cas. Enfin, il reste encore très, très important. Mais il accompagne. C'est le compagnon de la solitude, c'est le compagnon de la route, le compagnon du matin, le compagnon des petits déjeuners, et ça apporte à beaucoup de solitaires, à beaucoup de gens, quelque chose d'irremplaçable. Il n'y a pas besoin de l'image. On est là, quand on entend une bonne voix, on a l'impression qu'on voit cette voix, si je peux permettre.
Dans tout ce que vous avez fait, Philippe Labro, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort en particulier? Est-ce que c'est l'écrivain? Est-ce que c'est cette période du cinéma? Est-ce que c'est la période de journaliste? Tout est mêlé. On a l'impression que tout est mêlé.
Oui, mais je vais vous dire, j'ai aimé tout ce que je faisais au moment où je le faisais. Et je n'ai eu aucun regret d'avoir arrêté le cinéma, arrêté la radio, de faire autre chose. Je suis passé d'étape en étape comme ça pour essayer d'en savoir un peu plus, d'acquérir un petit peu plus d'expérience, de jugement et peut-être de sagesse, et pour en faire profiter peut-être, car à mon tour je deviens un mentor, des générations plus jeunes. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste ce qui m'anime et m'agite encore aujourd'hui, la curiosité, le besoin de comprendre. Le temps devant moi est plus court, le temps m'est compté malheureusement, et néanmoins pour moi, il y a la vie avec un V majuscule, et je considère que la vie est un miracle absolu. J'essaie de la vivre au mieux, avec, on n'en a pas parlé du tout, mais l'importance considérable que j'accorde à ma famille, ma femme et mes enfants et mes petits-enfants. Voilà.
C'est très important, c'est même le plus important, Philippe
oui.
Labro.
Oui.
En vous regardant discuter, j'avais les yeux souvent fixés sur votre chevalière,
oui.
qui est une de vos caractéristiques. Elle vient de l'époque de l'université, c'est ouais. chevalière de votre université.
Oui, bien sûr.
Vous l'avez toujours portée.
Toujours, bien sûr. Quand je suis rentré avec ça, mes amis m'ont dit c'est un peu vulgaire, c'est un peu voyant. Je leur ai dit que je vous emmerde. C'est mon fétiche, c'est mon souvenir, c'est ma jeunesse et c'est ma fierté.
Merci, Philippe Labro.
Je vous en prie.
Les écrits américains de Philippe Labro sont donc rassemblés dans un volume de la collection Quarto chez Gallimard. Idée réalisée par Vanessa Rovensky, bien sûr, avec une prise de son de Stephen Hestley. Je vous rappelle que vous pouvez également écouter ce magazine sur le site de la radio, l'application RFI, Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Pas d'idée la semaine prochaine, priorité sera donnée à la Cannes. Nous nous retrouverons donc dans 2 semaines à 17h10 temps universel, 18h10 à Paris. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.